Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Retenez bien cet horaire et évidemment vous pouvez participer à cette émission en composant le 32-16. Ce matin avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski. Dans quelques instants, le président de la République Emmanuel Macron qui veut instaurer une fête nationale du sport tous les 14 septembre. Êtes-vous pour ou contre les GG? 10h30, McLaren a enfin choisi son poulain et va désormais avantager Lando Norris à 8 Grands Prix de la fin. Enfin avantager, on ne sait pas trop d'ailleurs. L'écurie britannique a-t-elle tout faux dans cette histoire? Et puis 10h45, les GG contre-attaque, les grandes gueules. Vous prenez les commandes de cette émission en nous proposant un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Le grand gagnant viendra exposer sa problématique à 10h45. Alors sachez, je connais tous vos débats, il y en a un que je préfère. Je vais me prononcer pour une fois, je ne resterai pas neutre, ok? Christophe Cessieux, c'est quoi ton débat?
C'est pas le mien que tu préfères.
Ah, je sais pas, vas-y. Ouais,
t'aimes pas le vélo,
vas-y,
c'est le golf, on l'a bien compris. Cesse d'influencer nos auditeurs quand même, c'est un scandale. Je sais que tu vas voter pour Marion et c'est normal, moi aussi.
Alors, tu proposes quoi?
Moi, je vais vous parler de Julien Alaphilippe parce que l'info est passée un peu inaperçue cet été avec toute la masse d'informations. Bah oui, Alaphilippe a signé chez Tudor. Tudor, c'est quoi? C'est qui? Pourquoi chez Tudor?
Quelle
drôle d'idée. Pourquoi il était là-bas? Je vais tout vous expliquer si vous votez pour moi.
Il a une faculté de teaser.
Il est bon, hein?
T'as envie de savoir.
Bah, c'est un
fait.
Métier, hein? Ouais, c'est pour métier. Ça, hein, mes copains.
À la tease, ouais, je suis pas mal.
Il est hypnotiseur.
Oui, Sarah Pitkowski, c'est quoi ta proposition?
Alors, moi, je vais vous parler d'un jeune homme que certains, les enfants de ceux qui nous écoutent doivent forcément connaître.
Ouais, moi, j'en ai entendu parler tout le week-end.
C'est
de ce
8 millions d'abonnés sur YouTube. C'est 6 millions de followers sur Insta. Et effectivement, ce YouTuber plutôt habitué à de streamer derrière son écran a relevé le défi de gravir l'Everest et il en a fait un film. Et ça peut peut-être me faire changer l'image.
Ah ouais.
Ça peut peut-être me faire changer l'image de ce monde de
8 millions de votes, voilà. Alors tu vas
okay.
voir.
Est-ce que les influenceurs...
Si les gamins de 10 à 15 ans nous écoutent, t'es sûr de gagner ça. Mais bon, c'est pas vraiment notre cible.
À 10h10, ils pioncent les gamins quand même.
Surtout
votez les plus âgés, votez. Pascal Duprat.
Non, moi, tout modestement, j'ai été interloqué par le clash, par médias interposés entre Thiago Motta et Véronique Rabiot, la maman agente d'Adrien. Et puis, il me vient cette réflexion, est-ce que parents, agents, ça rend véritablement service aux jeunes sportifs professionnels?
Et il sait de quoi il parle, évidemment. Il a souvent traité avec les agents et donc avec les parents et l'entourage. C'est la proposition de Pascal.
T'en as claqué quelques-uns des agents, non?
Il m'est arrivé d'avoir quelquefois été impressionné, même.
Mario Bartoli, ta proposition?
Alors moi j'ai fait une rechute. Je suis désolée, pourtant j'ai essayé de ne pas proposer ce sujet. Et puis j'ai une notification push RMC et puis j'ai cliqué et après voilà, c'était parti. Moi je vais vous proposer la défaite en 37 minutes magnifique de Benoît Paire au Challenger de Rennes, 606-0. Comment vous dire, j'ai fait une rechute, j'ai pas pu m'empêcher de regarder et j'ai beaucoup ri.
Elle veut nous parler de Benoît Paire. Alors je
Santé,
garde,
Benoît.
Je suis un journaliste. Je garde ma neutralité. Oui. Mais votez Marion.
Oui, mais votez Marion, attention, t'auras pas 37 minutes.
Non, mais sincèrement, pour faire l'analyse des 37 minutes, il faut pas 37 minutes.
Ok,
pour ce qui a été produit, franchement.
Non, et puis là, j'ai adoré la déclaration de Nico Mahut derrière. C'était fabuleux.
Et ben
non,
voilà.
Tout ça a été magique.
Si vous voulez parler de Benoît Paire, en tout cas, que Marion parle de Benoît Paire.
Du mal à résister là.
Vous votez sur le compte X des grandes gueules du sport. Allez, on débute cette nouvelle heure avec cette citation de Laurent Ruquier, qui a dit un jour, la fête de la musique, c'est la fête des gens qui ne foutent rien le lendemain.
RMC, le bras de fer GG.
Très heureux de vous accueillir ici en direct des Champs-Élysées, tout en haut des Champs, au pied de l'Arc de Triomphe, pour la parade des athlètes.
Franchement, ça me fait vibrer de voir cette place qui va nous être dédiée cet après-midi, ça va être énorme.
La parade a débuté, hein. Les athlètes sont en train de remonter les Champs-Élysées.
Je me sens très chanceuse de pouvoir encore vivre ces Jeux, c'est sans fin, on a l'impression que c'est sans fin, mais reconnaissant de toutes les personnes qui sont venues, vraiment.
C'est le début de la remise des décorations, notamment avec le président de la République qui est là. On a beaucoup de médaillés et même la patrouille de France qui est dans le ciel de Paris.
Et toi ? Mickey Riner, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du mérite.
Et cette fois, c'est vraiment fini. Hier, c'était l'épilogue des Jeux Olympiques et Paralympiques avec le grand défilé, vous l'avez entendu, des champions sur les Champs-Élysées. Comme une envie que la fête ne s'arrête jamais, comme un symbole de l'héritage de Paris 2024, le président de la République a fait une proposition dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, instaurer une fête nationale du sport tous les 14 septembre dans un modèle proche de celui de la fête de la musique, j'en parlais, qui a lieu chaque année le 21 juin. Voici ce que nous dit le chef de l'État. Je veux qu'un peu partout, les Français s'adonnent à leur sport par des démonstrations, des compétitions avec les jeunes et les moins jeunes, ce qui permettra de réenclencher pour la rentrée la pratique du sport au quotidien. Cette fête du sport, est-ce que vous êtes pour ou contre les GG? Dans le coin gauche, la team contre, représentée par Sarah Pitkowski. Et elle est farouchement contre. Dans le coin droit, la team pour.
Oui.
Et c'est nuancé. Christophe Cessieux, Marion Bartoli et Pascal Duprat. Avant de débattre, mais GG, on retrouve notre journaliste RMC Sport, Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour à tous.
Qui a assisté hier à la grande parade. L'occasion, c'est vrai, pour les Français de se réunir une dernière fois avant de dire au revoir au JO.
Et une dernière carte postale en bleu, blanc et rouge devant l'Arc de Triomphe pour les triomphateurs de l'été. Le soleil est là, 62 000 personnes, rien que pour eux. Les trois coups, le feu d'artifice aux couleurs du drapeau, on se croirait quelques jours en arrière, tout en blanc. Les 345 athlètes olympiques et paralympiques s'avancent vers le podium devant eux. Un cop de 100 supporters, tous de bleu vêtus. Envers les bénévoles en bleu, les membres du comité d'organisation, avalanche de selfies et d'autographes, sourire sur les lèvres, drapeau bleu, blanc, rouge devant eux, en haut des champs et dans le ciel au passage de la patrouille de France. Inconnu il y a un mois, certains se découvrent une nouvelle célébrité comme Johan Benjamin Gaba, le judoka qui est l'un des nouveaux chouchous. Léon Marchand n'a apporté qu'une seule de ses 4 médailles d'or. Le nageur a le sourire jusqu'aux oreilles.
C'est beaucoup d'émotions. Déjà, j'ai envie de remercier tout le monde parce que les bénévoles étaient incroyables, tous les gens qui ont organisé Paris 2024. J'ai aussi avec tous les médaillés de l'équipe de France, c'est aussi mes potes, donc je suis trop content d'être ici.
Le président de la République a décoré les champions, comme ici Aurélie Aubert, championne paralympique de boccia.
Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Des athlètes valident son idée de créer une fête du sport le 14 septembre à l'image du nageur Johan Ndoye-Broua.
On sait que le sport n'a pas une grande place à l'école, on sait qu'il faudrait faire encore plus que 30 minutes de sport qui est conseillé par jour, c'est pas assez, il faudrait en faire encore plus. Donc même si c'est une journée où tout le monde va courir, tout le monde court 5 km, c'est déjà super bien. Donc ouais, il faut encourager tout le monde à aller faire du sport, c'est important.
Le fleurettiste Enzo Lefort n'est pas pour ses raisons.
Le plus important, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'un moment dédié pour faire du sport. En fait, le sport, ça doit être pas forcément au quotidien, mais ça doit être ancré dans les habitudes de vie, ça doit être ancré dans la société française. Donc je pense que plutôt que de faire une fête du sport, il faudrait faire quelque chose de pérenne qui introduise le sport un peu plus dans la société.
La fête débute, karaoké géant sur les façades de l'Arc de Triomphe. Tous les sportifs passent sur scène. Teddy Riner est le seul en costume, tout en bleu. Autour du cou, la médaille de commandeur de l'Ordre National du Mérite. Les rugbymans rejouent leur danse de la victoire. On retrouve Philippe Catherine en bacchus tout bleu et soulevé par les haltérophiles de l'équipe de France. Et la garde républicaine, mais sans Aya Nakamura. Une fin parfaite pour la judoka Romane Dicot.
Hors du temps, c'est un moment magique, un moment inédit aussi. C'était important, nécessaire et ça marque un beau point final. Purée, c'est fini en fait, c'est vraiment fini.
La vasque s'élève dans le ciel noir de Paris, bleu, blanc et rouge. Quelques secondes avant minuit, elle s'éteint. Fin, le dernier mot pour ce supporter rencontré par notre journaliste Clément Brossard.
J'ai cité un grand commentateur sportif. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Le plus tard possible, mais tranquille.
Bravo Morgane Maury pour cet excellent reportage hier sur les Champs-Élysées pour cette parade des champions. Mais vous l'avez entendu avec deux sportifs, ce qui nous rassemble ce matin, eh bien c'est cette fête nationale du sport. Pour ou contre, vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Et c'est très partagé. À ma grande surprise, c'est 56% pour, 44% non. Sarah, tu es tout de même derrière. Pourquoi contre?
Est-ce que je peux faire comme au tennis?
je peux gagner le toss et donner le service à mes adversaires, parce que quand je vais donner les arguments, je suis quasiment sûre que je vais vous rassembler.
Ok, si tu veux, tu as le droit.
Alors on refait les règles maintenant.
Ouais. Comme j'étais pas bien, je prends le retour.
En fait, ce qui me surprend, en tout cas, je parle au nom de mes collègues.
Vas-y, Pascal.
Moi, je suis d'accord, parce que moi, j'attends, je me languis de t'écouter. Parce que je suis surpris que tu sois contre. Ouais. Voilà, tout simplement. Et, tellement tu es pondéré, tellement tes remarques sont toujours judicieuses. Ouais. Là, je pige pas où t'as trouvé le contre. Mais j'attends, parce que tu vas me sortir.
Ok, tout le monde attend, donc Christophe Sessieux, pourquoi pour
Christophe te regarde avec des yeux.
C'est moi, du coup, qui non, c'est avant de me faire bâcher par Sarah. Moi, je suis pour cette idée, parce que il y a presque 40 ans, un certain Jacques Lang avait eu une idée qui avait aussi suscité la critique lorsqu'il a lancé l'idée d'une fête de la musique. Tout le monde se disait, mais ça sert à rien. Voilà. Et il s'est avéré avec le temps que c'est devenu une institution, et qu'on n'imagine pas aujourd'hui un 21 juin sans fête de la musique, sans se faire casser les oreilles par des groupes improbables qui sont au bas de ta rue et qui, vraiment, c'est un enfer. Mais il y a du sourire et surtout ça fait descendre les gens dans la rue, ça fait que les gens se parlent, et c'est le principe de la fête. La fête, c'est pas ça doit être ça. Ça doit être un rassemblement avec des gens qui parlent autour de leur passion. Ça peut être la musique et ça peut être le sport. Et moi, je serais content tous les mois de septembre, alors que justement, t'as la tête dans le seau parce que tu sais que t'as la rentrée, que t'as les enfants, qu'il faut acheter les cartables et tout ça, qui commencent à faire moche. Et ben, redescendre dans la rue et avoir envie de fêter le sport tous les mois de septembre, de bouger ensemble. Je trouve ça très chouette, parce que l'idée de la fête, j'aime bien. Je sais pas si toi t'es une fêtarde. Moi, je suis un fêtard.
Mais je suis une fêtarde aussi. Donc,
de ce côté-là, mm-hmm. Voilà pourquoi j'aime cette idée. Après, évidemment, il n'y a pas que des arguments pour. Il faut que derrière cette fête, il ne faut pas que ce soit juste une espèce de vitrine, et que derrière, il n'y ait rien.
Et qu'on supprime,
qu'il y ait des coupes budgétaires, et qu'on se dise, voilà, on vous a filé une fête une fois par an, maintenant vous démerdez, le reste, comptez pas sur nous. Non, il faut évidemment que tout le monde se mette en action derrière le monde du sport.
Et sur qui va retomber cette fête? Sur qui ça va retomber, cette fête, l'organisation de cette fête?
Ça va être le ministère des sports qui va devoir payer.
Exactement.
Et les municipalités.
Vous savez combien de fois par an vous faites le sport déjà?
Déjà la fête hier, le gouvernement a dit, débrouillez-vous pour payer France Télé, là, régalez-nous, faites le budget pour la musique.
C'est ponctuel, c'est inédit, très bien.
Mais effectivement, il ne faut pas qu'il se réfugie derrière ce truc sans rien dire.
T'es la perceptrice du...
Non, je ne suis pas la perceptrice. Depuis 2017, au mois d'avril, nous avons une semaine entière dédiée au sport olympique qui s'appelle la semaine olympique. Nous avons la journée nationale du sport scolaire qui existe chaque année le 18 septembre. Nous avons la journée olympique du mondial qui est le 23 juin. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Une fête du sport qui va incomber...
Tu entends les autres et tu entends plus.
Alors... Non, mais qui va incomber à qui? En septembre, ça incombe à qui va devoir être sur les terrains?
Moi, je voulais emboîter le pas justement parce que j'ai une idée.
Aux associations sportives.
Oui, mais j'aimerais que cette fois-ci.
Et les associations sportives, qu'est-ce qu'elles font au mois de septembre? Toutes les fédérations, elles font les journées portes ouvertes dans toutes les associations. Et on essaie de faire sortir son sport de sa salle de sport pour essayer d'aller chercher des gens. Tous les forums des associations, ils ont lieu quand? Au mois de septembre. Donc, coller une journée, une fête nationale du sport en septembre, qui va incomber aux associations,
donc aux bénévoles, pour les bénévoles,
mais ils l'ont déjà, ta fête du sport, elle existe à Évreux, à Dreux. Mais on s'en fiche qu'elle soit pas connue, parce qu'en fait, on veut faire que ton gamin ou que la maman d'un gamin, elle se dise, je vais aller faire mon yoga pendant que mon gamin, je vais le mettre au foot. Et où est-ce qu'elle va aller chercher ses horaires? Elle va aller au forum des associations. Les municipalités le font déjà très bien. Donc en fait, c'est une vitrine pour faire beau. Mais moi, l'argent qu'on voudrait mettre là-dessus, donnez-les aux associations. Donnez-les au sport pour tous. Mais arrêtez de mettre et d'empiler comme un millefeuille des pseudo-journées, de sanctuariser une fête nationale du sport, alors qu'on a déjà des rendez-vous qui existent, qui sont peut-être pas assez connus, mais qui eux ont une vraie vocation. Le sport olympique, la semaine du sport olympique, c'est des champions qui vont dans les écoles. C'est très bien, continuons. Continuons.
Bah en fait,
les
je suis d'accord avec toi, alors, tu vois.
Mais oui.
Ah, il a retourné.
Parce que moi, j'étais dans ce move-là.
Et le sport scolaire, le 18 septembre, où est-ce qu'on doit faire? faire du sport.
Moi, je vais aller plus loin.
Avec l'UNSS. Et
tu peux pas tout regrouper. Et moi, je vais sur un week-end, mais regrouper ces trucs-là.
Un week-end, t'as pas l'école. Tu peux pas aller, tu fais pas du sport à l'école le week-end. Donc même si tu fais ça le week-end, il faut continuer
les journées du sport scolaire.
Les bureaux des étudiants. En fait, on a une pyramide qui est super bien organisée.
Pour compléter ce que tu viens de dire, pardon Marion, j'en ai pour quelques secondes. Pour compléter ce que tu viens de dire, ton argumentation, franchement parfait. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit le sportif professionnel, ok, qui remercie les bénévoles, les éducateurs, les enseignants du sport au travers de cette fête-là, qui prennent eux l'initiative d'organiser les manifestations partout en France. Là, pour moi, ça serait significatif.
Ouais, c'est une fédération, c'est
de
pas sportif.
Récompenser ceux qui font que in fine, les médaillés ont été médaillés. Ceux qui, tous les week-ends, font en sorte que le sport existe
mais
en France.
Mais dans tes journées portes ouvertes, tu sais quoi? Les clubs, ils mobilisent leurs meilleurs champions pour venir faire des démonstrations. On le fait déjà. On le communique peut-être pas assez bien, mais on le fait déjà. J'ai bossé avec tellement de fédérations. Et sincèrement, à chaque fois, à la rentrée, ils font des communications. Ils font des plans de communication. Ils font des journées portes ouvertes. Le tennis de table en fait partout. La natation. On fait partout, le tennis en fait partout.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Attends Sarah, parce que tu vas prendre Marion dans le buffet dans quelques instants, parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi. Marion.
Alors, je suis pas d'accord du tout pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que pour moi, cette fête, en fait, correspond finalement à la fin aussi des Jeux Olympiques, à ce qui s'est passé pour les athlètes français et l'engouement populaire qu'il y a eu en France autour des athlètes français. Et donc, c'est une espèce de marqueur pour célébrer la réussite du sport français et d'avoir un événement pérenne qui va durer dans les années. Et on se remémorera certainement en 10, 20, 30 ans, justement, des exploits de tous les athlètes français qui ont réussi à obtenir des médailles pendant ces Jeux Olympiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors certes, je viens d'un département peut-être qui est un petit peu petit, mais j'étais dans un parcours scolaire normal. J'étais dans un club tennis inscrit dans mon village. J'ai jamais eu personne qui est venu ni dans mon collège, ni dans mon lycée, ni dans mon école primaire faire des journées portes ouvertes pour le sport. J'ai jamais eu aucun champion qui est venu pour une semaine olympique. Et encore moins voir quelqu'un du tennis français qui est venu me voir en me disant, inscris-toi au tennis, c'est un sport génial. Donc aujourd'hui, si on veut arriver, et je n'en disconviens pas, je connais pas assez le système associatif en France, je remets pas du tout en question ce que vient de dire Sarah. Je dis simplement que si aujourd'hui, on peut arriver autour d'un élément fondateur et majeur qui a été les Jeux Olympiques en France avec la réussite populaire et sportives qu'ils ont engendrées. Si on peut arriver à prendre au bon cet élan et à obtenir un événement qui soit beaucoup plus majeur, beaucoup plus important et beaucoup plus donc ouvert aux jeunes pour les tourner vers le sport, je pense qu'il faut vraiment le faire. Et si effectivement il faut d'ailleurs enlever d'autres événements qui sont beaucoup moins connus, parce que tu les as évoqués Sarah, et franchement, je suis quand même assez dans le sport, j'en avais absolument aucune idée, je pense qu'il faut le faire aussi. Mais aujourd'hui, de se dire finalement que ce que les Jeux Olympiques de Paris vont laisser en héritage, c'est deux mois ou un mois et demi fabuleux, et puis que finalement, il n'y aura plus rien après. Je trouve ça dommage. Donc, l'idée de fêter ces sportifs sur le long terme et d'avoir un petit peu je vais pas dire un devoir de mémoire, mais en tout cas de se rappeler de ce que les Jeux Olympiques ont été et du coup de fédérer autour du sport, moi, pour moi, c'est une très bonne idée. Okay. Même si je suis complètement d'accord avec vous, il y a beaucoup plus à faire que ça, parce que ce sera pas suffisant.
Depuis le début de ces Jeux Olympiques, et même avant, on en parlait, c'est l'héritage. Et en fait, ce que tu dis, Sarah, c'est ne pas s'éparpiller dans l'héritage.
Mais l'héritage, en créant une journée, fêter des athlètes olympiques à Paris 2024, mais ceux de Rio, ceux de Tokyo, ceux des autres, on a tout le temps de les fêter, on n'est pas capable de le faire. Aujourd'hui, le sportif olympique, il est très bien. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde se mette au sport. On veut qu'il y ait un accès aux installations. L'héritage, moi, je veux le voir en disant que quand je décide d'aller faire un sport, que j'ai 40 ans, 50, 60 ou mon gamin de 8 ans, que je puisse aller dans une association sportive avec un encadrement, avec des installations qui vont pouvoir me permettre de faire du sport sur la longueur. C'est ça l'héritage des Jeux Olympiques. C'est d'avoir des piscines dans le 93. C'est pas d'avoir une journée nationale du sport. L'héritage pour en faire
l'un
une vitrine.
L'un n'empêche pas l'autre.
Mais là n'empêche pas l'autre, les deux sont largement possibles.
Hier, Pascal, tu disais qu'on n'avait pas d'argent. Mais moi, je préfère qu'on mette de l'argent pour faire du sport plutôt que faire une vitrine et de faire des marais.
Je le dis aujourd'hui.
C'est pas le coût d'une journée qui va empêcher de faire une piscine.
Mais si, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui quand on dit 30 minutes de sport.
C'est un budget d'État qu'il faut libérer. C'est pas parce qu'on va faire une journée en payant une journée.
Le budget d'État des 30 minutes dans les écoles aujourd'hui, c'est très bien. Mais sauf que les enseignants, ils sont pas formés à faire du sport. Les gamins, ils font du roller ou font du frisbee. Donc on va arrêter, c'est très bien, 30 minutes. Mais mettez les moyens pour que quand vous ayez une idée, elle aille au bout de cette idée. Voilà, c'est tout simplement ça.
Je vais vous dire honnêtement.
Il faut que ça commence par quelque chose.
Je vais vous dire honnêtement. Je voulais pas faire ce débat hier matin. Parce que je pensais pas que ce serait un débat. Parce que je trouvais ça très bien, moi, dans l'idée. Moi, on me vend une fête du sport. Je dis, bah oui, banco.
Ouais.
Et puis, j'ai vu que Sarah, elle ronchonnait, elle était pas bien. Je me suis dit, on va faire ce débat ce matin.
Ouais, ça me...
Et force est de constater que, oui, c'est épidermique, hein,
je le sens. Non, c'est épidermique parce que.
Oui, on a compris,
Force
est de constater que Sarah était brillante sur son exposé. Nous sommes partis à 56%. Pour 44% contre.
Tu l'amour, Sarah.
Sachez que nous sommes, et c'est l'une des premières, écoutez-moi bien, dans les grandes gueules du sport, nous sommes à 52-48. Elle a gagné 4%
de plus parce que j'en ai encore des arguments.
Voilà. Alors, je rappelle à tous nos auditeurs que les sondages sont truqués.
Voilà. Le retour de la France pessimiste, le retour de la France qui se plaint.
On est toujours devant.
Le retour de la France ronchon. Bah, bravo. Bravo.
C'est pas vrai.
Bravo, Sarah, en tout cas, pour cette performance. Si vous voulez en reparler, le 32-16, évidemment, ce sera 11h45. Vous aussi, vous êtes des grandes gueules. Si vous n'êtes pas d'accord avec Sarah, eh bien, c'est très simple. Vous venez lui dire directement. Merci beaucoup Morgane Maury pour ce reportage.
Merci Morgane.
Après cette parade hier sur les Champs-Elysées. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler de Formule 1, le Grand Prix d'Azerbaïdjan aujourd'hui. Et McLaren a enfin tranché. Enfin oui. Enfin non. Enfin on ne sait plus. C'est de la bouillie.
À l'anglaise.
À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci de nous écouter aussi nombreux en direct. Sachez que la première partie de cette émission, le débat de 9h PSGOM, le débat aussi sur la fête nationale du sport sont déjà disponibles en podcast, toujours avec Christophe Cessieux, Pascal Dupras, Sarah Pitkowski et Marion Bartoli ce matin. Dans 10 minutes, restez bien avec nous, les GG contre-attaque, nos GG qui ont proposé chacune un débat. Et à ma grande surprise, à ma grande joie, je sens que l'on va parler de Benoît Paire. Marion Bartoli va se l'offrir. Santé Benoît, ce sera dans quelques instants. Restez bien avec nous, Marion est largement
la,
en tête.
La prochaine fois, tu sais quoi ? Tu nous demandes pas de préparer une contre-attaque, tu vois. Tu nous dis,
tu ménages ton monture.
On vote Marion, tout le monde est d'accord. Et comme ça m'évite de passer 2 heures à préparer un truc. C'est la dernière fois que je prépare une contre-attaque parce que ton interventionnisme est scandaleux.
Très bien. Pardonne-moi Christophe. C'est dans 10 minutes et on parlera peut-être d'Alaphilippe proposé par Christophe.
Votez
Christophe, hein, évidemment.
Vraiment pas de démocratie
Christophe,
dans cette émission.
Je suis sûr que ta contre-attaque, tu peux la garder pour un prochain week-end.
Je vais lui remettre tous les week-ends jusqu'à ce que ça finisse par gagner.
Allez, c'est dans 10 minutes. Alléluia! McLaren a tranché, enfin presque, à 8 Grands Prix de la fin. Jeudi, le patron de l'écurie, Andrea Stella, a annoncé que Lando Norris allait être favorisé désormais au détriment d'Oscar Piastri. Avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, ce dimanche, le pilote anglais n'est plus qu'à 62 points de Max Verstappen. Et pourtant, depuis le début de la saison, McLaren refusait de faire un choix. Elle était visiblement convaincue, l'écurie britannique, de changer de stratégie. Lando Norris ayant perdu 10 points derrière son propre coéquipier, McLaren renverse la table, mais il y a encore un mais. Andrea Stella, c'est la punchline des GG, rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
Nous allons favoriser Lando Norris. Nous voulons le faire sans compromettre nos principes comme la sportivité. Soutenir son coéquipier occasionnellement. Ça va, mais on ne veut pas s'ajuster de manière systématique juste pour donner plus de points au coéquipier. Ce n'est pas la façon dont McLaren ou Lando veut gagner.
C'est moi ou Siri me drague là, avec sa petite voix là, non ? Elle est pas en pleine séduction là, Siri ? Bon, merci en tout cas, Siri, pour cette phrase d'Andrea Stella.
On aurait juste changé son nom, Siri, c'est pas.
Oh, c'est sympa. L'écurie McLaren a-t-elle tout faux dans cette histoire ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Bon, non, je vois pas pourquoi.
Non. Sarah Pitkowski.
Moi, je pense qu'elle prend pas la bonne décision. C'est plutôt faux.
Ok, c'est plutôt oui. Marion Bartoli.
Elle prend la bonne décision.
La bonne décision, Pascal Dupraz.
C'est une excellente décision.
Excellente décision. Bon, tu es encore toute seule, Sarah. Vas-y, défends la preuve et la preuve.
Je suis pas sûre que sur ce coup-là, je sois aussi, inspirée que sur le débat de
la. Tu veux nous laisser la parole encore une fois?
Non,
donner des arguments après, quoi.
Mais c'est vrai que, dans la Formule 1, le premier adversaire d'un pilote, ça reste son coéquipier qui, normalement, doit travailler avec les mêmes, les mêmes ingénieurs ou en tout cas le même matériel, en tout cas théoriquement. Et souvent les plus grandes rivalités, elles sont arrivées dans les mêmes écuries et elles sont arrivées au détriment de situations qui étaient quand même très dangereuse. Et je voudrais juste remonter en arrière quand en 2007 il y a cette rivalité entre Alonso et Hamilton qui vient d'arriver, à Alonso qui est déjà champion du monde depuis 2 ans. Les décisions elles sont pas prises, et ce qui arrive, et bien c'est que finalement les deux s'opposent, ça devient extrêmement dangereux. Au Grand Prix de Belgique, ils ont failli scratcher tous les deux pour que finalement Hamilton soit champion du monde, Alonso parte chez Renault. En 2016, vous vous souvenez, et Christophe, on en parlait ici, c'était Nico Rosberg, Hamilton, cette rivalité toute la saison, parce qu'on avait dit à Rosberg de se mettre derrière Hamilton, on est d'accord ? Eh bien, il n'a pas accepté, il a quand même voulu jouer sa carte, et Hamilton, sur le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, veut ralentir pour ne pas faire gagner son propre coéquipier. Parce qu'en fait,
ils étaient rivaux,
mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, dans ces écuries, si tu n'es pas capable de prendre un numéro 1 et que ça soit dit en début de saison, et un numéro 2 bis, et bien tu te retrouves
à des décisions. C'est ce qu'ils font, là, Sarah.
Ils décident d'instituer une hiérarchie, là.
Ils l'ont fait un peu tard, c'est ça.
C'est-à-dire que t'attends de voir.
Mais oui, mais
t'attends de voir celui, c'est trop tard en fait.
Mais non, mais le problème, c'est que dans cette écurie, ils ont perdu l'habitude d'être au sommet.
Ah oui, parce que Red Bull a une hégémonie depuis plusieurs années, c'est ça.
Oui, je suis pas sûr qu'en début de saison, ils pensaient qu'ils allaient réussir à inquiéter Verstappen. Donc, t'as deux pilotes qui ont un an d'écart. Il y en a un évidemment qui a un peu plus d'expérience. Ça fait 6 ans. Qui est chez McLaren, alors que Piastri dispute seulement sa deuxième saison. Donc il y avait une sorte de hiérarchie molle, c'était pas vraiment décidé.
Donc il y a une hiérarchie, pourquoi tu l'instaures pas depuis le début?
Alors moi, pardonnez-moi, mais je vous donne la main, mais je trouve, parce que je ressente le débat, je trouve que la hiérarchie est toujours aussi molle. Parce que si on entend bien, le directeur sportif qui nous dit on va faire un peu au cas par cas, c'est-à-dire qu'on tranche, mais on tranche pas trop. Il y a Lando Norris derrière. Il parle beaucoup de sportivité. Franchement, c'est louable dans le sport.
Oui.
Mais ils sont là en disant non, mais nous, on veut pas s'avantager les uns les autres parce qu'on veut pas grappiller des points comme ça. Lando Norris, il dit, je veux pas qu'on m'offre le championnat. Ce serait génial de gagner un titre.
Mais je ne pense pas.
Je veux battre Max Verstappen, mais je veux pas le battre en ayant des points de mon coéquipier.
Ils prennent cette décision après ce qui s'est passé à Monza.
C'est le fondement de la Formule 1, quand même. C'est la stratégie même de la Formule 1.
Mais cette décision, elle est prise après ce qui s'est passé à Monza. Avec la sortie de la chicane.
Enfin, oui, parce que sorti les premiers virages,
ils sont 1 et 2, ils finissent 1 et 3.
La conclusion aujourd'hui, on annonce ça, il est où Lando Norris aujourd'hui?
Il est 16e sur la grille.
Il est 17e.
Il s'est raté.
Mais si jamais ça revient,
effectivement, aujourd'hui, Piastri doit avoir carte blanche. Et ça doit justement être uniquement dans ces cas-là qu'on doit le laisser aller chercher la gagne.
Cela dit, moi, je trouve ça extrêmement louable. Voilà. Le fait de définir malgré tout, parce que c'est ce qu'il dit en fait, Stella, il définit une hiérarchie alors qu'il reste 7 grands prix, je crois. Donc il définit une stratégie, mais c'est pas au privilège du grand n'importe quoi.
Mais
si Piastri est devant et doit gagner, ben il gagnera.
Mais est-ce que vous avez déjà entendu dans une écurie dire très bien. Lui est premier pilote, l'autre est son vassal. Personne ne le dira, mais les choses, chez Red Bull, tu sais très bien que Pérez, c'est très bien que si un jour il y a Verstappen derrière lui, il va se garer, il va le laisser passer. Mais jamais ils vont dire Verstappen est notre pilote, l'autre ne va servir qu'à lui apporter les bouteilles d'eau. Non, ça se dit pas. Et là, c'est pour ça.
Ils le disent. C'est de la com. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Christophe.
Regarde, Alpine, ils ont pas voulu donner d'hiérarchie. Regarde Ocon et Gasly qui n'étaient pas d'ailleurs les meilleurs amis du monde. Est-ce que ça a une conséquence sur aujourd'hui les résultats d'Alpine?
Ils ont tué Ocon. Ouais, moi, je suis désolé.
Marion Bartoli sur le sujet.
Ils se sont rentrés
déjà. Je suis désolée de vous le répéter, mais il resterait 8 Grands Prix et pas 7. Après, sur le cas actuellement de McLaren, il y a plusieurs éléments. La première, c'est que, comme l'a dit Christophe, derrière, après les saisons passées, de se dire qu'aujourd'hui, ils seraient au classement du constructeur extrêmement proche de Red Bull, ils n'ont que 8 points d'écart, et que mathématiquement, même si j'y crois pas vraiment, je pense que Verstappen, il a des problèmes mécaniques extrêmement importants actuellement, mais je pense qu'il finira quand même champion du monde. Mathématiquement, c'est possible pour Lando Norris, effectivement, d'aller chercher un titre de champion du monde. Quand t'as quand même des écuries que devant toi, comme Ferrari, Mercedes et Red Bull, te dire ça au début de l'année, je pense qu'il n'avait vraiment pas envisagé. Ensuite, ils prennent cette décision actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé après Monza. C'est une évidence. Ils se retrouvent en même temps 1 et 2. On voit très bien que tous les deux, malheureusement, n'ayant pas des consignes de course extrêmement claires, à la sortie de la chicane, ils font un peu n'importe quoi. Ils se retrouvent 1 et 3. Donc, qui se disent, écoutez, pour l'instant, on va favoriser plutôt celui qui est le plus proche d'être champion du monde. Mais que, bien évidemment, s'il y a des écarts importants de classement, comme là, sur la grille de départ d'Azerbaïdjan, où t'as Piastri qui est 2 et t'as Norris qui est dans les choux, bien évidemment, qu'ils vont pas dire, tu laisses passer Norris, c'est une évidence. C'est si tu te retrouves dans des situations de course où c'est extrêmement serré. Je vous rappelle quand même l'épisode de Kimi Raikkonen qui a été champion du monde pour un point, où très clairement on a dit à son coéquipier le laisser passer pour que ce soit Kimi Raikkonen qui soit champion du monde. Donc c'est pour éventuellement être dans des situations où c'est extrêmement serré et en favorisant Lando Norris, tu peux faire le doublé, c'est-à-dire être champion des constructeurs et être champion de pilote individuel. C'est complètement logique.
Non, mais à la rigueur,
c'est
Marion.
C'est logique, mais c'est implacable. Oui, non, mais... Je rappelle quand même que McLaren est à 15 podiums sur 16 Grands Prix cette année.
Marion, ce donc que je ne comprends pas. Ça, on comprend. Ça, on comprend qu'à un moment donné, ils doivent trancher et qu'ils doivent donner une logique de numéro 1, de numéro 2. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'arrêtent pas de répéter Piastri, Lando Norris, le directeur, il est en train de dire non mais nous on veut pas Norris par exemple, il veut pas voler de victoire à son coéquipier s'il mérite de gagner alors il gagnera. Mais non mais Marion, mais coéquipier typiquement c'est dans Formule 1, cette situation, c'est le principe comme même de la Formule 1. C'est-à-dire c'est le mais principe
c'est
même
comme
de
une
la
situation
Formule 1.
Comme ce week-end, c'est une situation comme ce week-end où tu as un écart important sur la grille de départ et donc tu vas pas favoriser
là, oui,
un Norris
on comprend.
Voilà, donc au départ, en fait, qu'est-ce que la déclaration, quand tu l'écoutes bien et quand tu lis un tout petit peu entre les lignes de la déclaration d'Andrea Stella, qu'il a fait d'ailleurs sur une déclaration en 9-10 minutes sur un interview qui est orale avec des journalistes qui l'ont questionné et qui l'ont d'ailleurs questionné sur cette partie de Kimi Raikkonen, la question lui a été posée, c'est pour dire clairement quoi ? À un moment donné, l'intérêt suprême de McLaren va être supérieur à l'intérêt des pilotes. Mais on le sait très bien que c'est comme ça pour toutes les écuries. Donc dans cet intérêt suprême, si sur une stratégie de course, il faut favoriser un pilote par rapport à un autre ou sur une grille de départ, ils vont partir à des positions quasi égal, on va favoriser celui qui est plus proche de gagner. C'est complètement logique.
Non mais ça,
après,
on a compris.
Dire, on va le faire sur
ça,
tous les grands prix, quoi qu'il arrive, quelle que soit la grille de départ.
Je t'ai dit que j'avais compris, Marion.
Mais il n'y a pas d'autre chose à voir.
Mais si, il y a autre chose. Il n'arrête pas de parler de sportivité. C'est ça que j'essaye de te faire comprendre.
Mais la sportivité, c'est le cas actuel.
Mais non, la sportivité, c'est qu'ils disent, non mais même Lando Norris dit, si mon coéquipier est devant et que je suis deuxième et que s'il doit gagner, je ne vais pas lui voler la victoire.
Donc ça se passe.
Oui, mais ça, c'est de la com.
Je veux vérifier la sincérité.
Verstappen est jamais champion du monde lors du dernier Grand Prix du siècle ou du fiasco, vous appelez ça comme vous voulez, s'il n'y a pas Sergio Pérez qui ralentit Lewis Hamilton.
Non, mais surtout, si c'est pas Michael Massi qui va lui donner la course, s'il te plaît, va pas revenir là-dessus.
Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si à ce moment-là, on laisse que la sportivité et celui qui va plus vite, Lewis Hamilton, il est champion, si on ne parle pas de stratégie. Et la Formule 1, c'est de la stratégie.
Alors, on fait un scénario pour aujourd'hui. Admettons que Lando Norris remonte et que Piastri soit encore devant. Pour aller chercher les points qu'il lui faut, Piastri va se mettre de côté, il va faire passer Lando Norris.
Je pense qu'il doit le faire.
D'après ce qu'ils viennent de dire,
je pense qu'ils doivent le faire. Ils ont déjà dit points d'avance.
Toi, t'es un tricheur. désolé. Voilà, désolé. À ce moment-là, il y a une chose que je ne comprends pas en Formule 1.
Ferrari a toujours fait ça.
Si le deuxième pilote, c'est un faire-valoir. Mais pourquoi il y a deux pilotes par écurie ?
Parce que c'est
à faire des courses avec un seul pilote. Alors,
faire-valoir dans tes équipes, c'est toujours bien d'avoir un faire-valoir. Ça permet d'avoir un orgueil.
Oui, un porteur d'eau. Regarde
Sergio Pérez qui bat en qualif Verstappen. Je pense que Verstappen, ça va lui mettre quand même un sacré coup à l'ego.
Ok,
parce que la première fois en 3-3 Grand Prix qui bat Verstappen en qualif quand même, Sergio Pérez. Donc t'as besoin toujours d'avoir un numéro 2 qui pousse derrière pour garder
le numéro 1 de JC, mais si je peux l'envoyer dans le mur, je vais pas me gêner.
Et voilà pourquoi c'est important d'avoir un très bon coéquipier. Même si au début de la saison on définit une stratégie et puis qu'au bout de deux émissions ça se fait pas. Le Grand Prix c'est à 13h et c'est à suivre évidemment sur RMC, le Grand Prix d'Azerbaïdjan avec Charles Leclerc, on en a pas parlé, qui partira
c'est lui qu'il faut pousser, Charles Leclerc, la Ferrari, il va peut-être remporter un deuxième
Grand
Prix.
Quand Lewis va passer chez Ferrari la saison prochaine, il va tous ses
L'année prochaine, ton pauvre Lewis il va montrer.
On va
lui mettre une caisse à sa roue à Lewis.
Les GG contre-attaque. Attention, je crois que Marion Bartoli va découper Benoît Paire. Restez bien avec nous. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h50 de retour dans les grandes gueules du sport à partir de 11h. Restez bien avec nous, il sera question de complexe, de bête noire et d'embrouille entre les deux coachs. On va parler de Toulouse-La Rochelle. Ce sera avec Wilfried Templier, notre correspondant à Toulouse. Toujours avec Christophe Cessieux, Pascal Duprassard, Pitkowski, Marion Bartoli. Et c'est à vous de jouer les GG.
RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ont été faites ce matin. Ces propositions de débat, vous avez pu voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Alors, à la dernière position, c'est notre ami Inoxtag qui grimpe l'Everest, 18% seulement. Et ouais, les jeunes, bah, ils nous écoutent plus, hein, les jeunes. Hein, les jeunes,
ils nous écoutent plus la radio.
Les jeunes, ils dorment. Si,
ils sont sur YouTube. Ils dorment.
18% sur Sarah. Troisième, quand même, la médaille de bronze à la Philippe chez Tudor.
Je joue plus à ton jeu, c'est
21%, bravo, mon cher Christophe.
Je joue plus à ton jeu.
Les parents à Jean, est-ce que ça peut poser problème dans un club? 23% pour notre ami Pascal Duprat, la deuxième place, c'est pas mal.
Insuffisant,
mais c'est pas mal quand même. Et alors là, c'est un plébiscite. 38% pour Marion Bartoli avec le match. Avec le match honteux de Benoît Paire. Marion, vas-y, c'était cette semaine, tu as un coup de gueule à passer, on t'écoute.
Alors coup de gueule, moi c'est surtout, ça m'a fait énormément rire parce qu'effectivement perdre en 37 minutes, il faut quand même aller très très vite entre les points, hein, parce que même si vous prenez 6-0 et que vous marquez pas beaucoup de points pendant chaque jeu, 37 minutes ça fait quand même extrêmement court. Mais c'est vrai que de lire surtout les déclarations de Nicolas Mahut qui est donc le directeur du tournoi et qui essayait tant bien que mal de pas trop accabler Benoît, alors ça c'est ce qui m'a fait le plus rire, parce que de dire quand même que effectivement il avait eu des infiltrations au niveau du poignet et qui donc il était venu se tester en match. On a tous les entraînements de la terre et du monde, peut faire des scènes d'entraînement de ce que tu veux avec n'importe quel sparring pour te tester, mais de dire que tu vas te tester en match sur un challenger avec un match officiel, ça c'est quand même assez fort de café. Donc je t'avoue que ça m'a fait beaucoup rire, mais voilà, d'arriver quand même encore à 30 à perdre en 37 minutes, j'avais du mal à lire l'article de la notification push d'RMC, mais c'est vrai que ça m'a forcément fait rigoler. Je suis désolée, j'ai refuté, mais là j'étais obligée d'en parler.
Rigoler, ça t'a pas énervé une seule seconde?
Je pensais que t'allais envoyer, mais en fait, t'en vois rien. Ils auraient mieux fait de voter pour moi.
T'es trop soft, Marion.
Mais je vais pas l'accabler encore plus. C'est juste que ça me fait extrêmement rire parce que c'est surtout l'excuse trouvée qui m'a fait énormément rire. Parce que de dire qu'il est venu se tester pour son poignet et que c'est parce qu'il s'est testé que malheureusement il a vu qu'il pouvait pas jouer et que donc le pauvre, c'est pas de sa faute s'il a pris 6-1-6-0. Je vous avoue que là, l'excuse m'a fait forcément rire. Après, le reste, je vais pas l'accabler. Je pense que vous allez faire mieux que moi. Mais là, c'était trop drôle pour que je puisse le laisser passer.
Benoît Paire qui a adressé des baisers au public qu'il a eu après cette rencontre et cette bouillie de rencontre.
Alors toi Marion qui est plutôt assez direct, je pensais que tu allais plutôt rentrer dedans, donc je vais prendre le relais. Le comportement de Benoît Paire, au-delà qu'il soit blessé, que ça soit une fausse excuse, qu'on essaie d'à chaque fois enrober les choses, le comportement qu'il a sur le terrain aujourd'hui est inadmissible. Mais ça n'engage que lui s'il est à l'autre bout du monde. Mais aujourd'hui, se comporter comme ça dans un tournoi français, donc qui impacte finalement
l'image
d'un tournoi qui en plus dirigé par un ancien ou encore joueur, ça dépend comment on se place, si Nico veut arrêter ou pas, peu importe. Mais aujourd'hui, ce comportement, il n'impacte pas que lui. Il peut y avoir des conséquences. C'est-à-dire que quand on a du mal à trouver des partenaires qui vont donner de l'argent pour ces tournois, pour que des jeunes Français aillent chercher des points pour monter au classement, que ce soit dans le tennis masculin ou féminin, ça fait... Pour moi, c'est inadmissible. C'est inadmissible et ça devrait être même sanctionné. Aujourd'hui, on sait que l'ATP, quand il y a des joueurs qui font semblant de jouer parce qu'en fait, ils sont blessés, il y a des sanctions logiquement là-dessus. Et en plus, ce comportement d'envoyer des baisers au public pour narguer tout le monde, quand Benoît Paire était 30e mondial et qu'il le fait à Bercy, ok, ça fait rire. Mais là, ça ne me fait pas rire du tout. Voilà. Ça
mais fait pas rire du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, les organisateurs ont encore un intérêt à avoir Benoît Paire dans leur tournoi?
Non, mais il est rentré dans le tableau par son classement.
Quand il arrive, souvent, les gens viennent voir parce qu'il va faire le...
On le met quand même en match phare dans la programmation.
Il reste bankable, il reste le mec qui peut faire le scandale,
le show
et tout ça.
Je vais supporter effectivement ce que tu as dit, Sarah, et je suis complètement d'accord. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs lectures d'ailleurs. La première, c'est que promenez-vous dans les allées de Roland-Garros chaque année, et moi chaque année, et même quand je rentre sur le terrain pour aller faire les interviews d'Alcaraz, de Djokovic, de qui vous voulez, de Swiatek, j'entends dans les tribunes, dans les coursives, des Santé Marion, etc.
Ben oui, de gens.
Mais bien sûr. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour ça que je finis par même plus vouloir taper dessus, parce que ça sert à rien. Et de toute façon, tout ce que tu as dit, Sarah, bien évidemment que je le cautionne, et bien évidemment que je suis complètement alignée à ce que tu viens de dire, mais ça finit par même plus servir, parce que de toute façon, entre guillemets, ceux qui continueront à vouloir supporter Benoît le feront, et ceux qui continueront comme nous à trouver ça inadmissible, inacceptable, tout ce que tu as qualifié, le continueront à faire aussi. Mais ce que je trouve quand même assez incroyable, c'est qu'il y a des gens qui continuent à le supporter et qui continuent à être d'accord avec ses attitudes et qui continuent à trouver ça super
drôle. Alors moi je suis pas d'accord.
À m'envoyer dans la figure des Santé Marion, etc., en disant bah, c'est entre guillemets, c'est Benoît qui a raison. Et ça, je trouve ça quand même assez hallucinant.
Je suis pas du tout d'accord, Pascal, avec ses attitudes et ses comportements. Cela dit, quand vous dites que ça fait mal au tennis, oui, ça fait mal au tennis, mais aussi, il doit se faire principalement du mal à lui.
Oui.
Donc moi, j'envoie un petit signal. Moi, j'aimerais bien discuter avec lui, voilà, humblement, pour comprendre. Parce qu'il s'autodétruit, ce garçon. Donc,
il n'y a pas grand-chose à comprendre, Pascal, tu sais.
Mais il a peut-être
quand tu ne fais pas les efforts
d'aide
au quotidien, quand tu ne t'entraînes pas, il n'y a pas grand-chose à comprendre.
Spécialiste de tennis,
tu sais.
Mais là, vous le sanctionnez, et là, vous avez raison de le faire.
Parce que
mais moi, je voudrais juste lui tendre la main pour essayer de comprendre.
Mais tu sais, il y en a beaucoup qui ont essayé de lui tendre la main. Il prend pas, c'est sa carrière. Enfin, je veux dire, il n'a pas 22 ans, très bien. Moi, c'est les conséquences de ses attitudes qui me gêne énormément.
Pascal, voilà. Le grand frère. Voilà, j'ai trouvé un rôle pour Pascal.
Non, mais
autre chose, Pascal, parce que toi, c'est sur France 3 à partir d'aujourd'hui, tu entraînes la pire équipe de France. Peut-être que tu peux entraîner le pire joueur de France.
Est-ce que c'est le pire joueur de tennis français? Je crois pas.
C'est une boutade.
Non, je crois pas. Je crois pas. En plus, c'est pas qu'il est bon foot.
Il y en a des plus mauvais. De toute façon, qui est bon dans le tennis français?
Non, mais comme ça, tu pourras te marrer.
Non,
moi,
mais
j'ai envie de voir ça. Pas,
en fait, c'est comprendre. Parce que c'est incompréhensible, vous nous en conviendrez tous.
Ok, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur Benoît Paire ce matin. Bravo pour cette victoire, Marion. C'était pas trop difficile. En plus, c'était poussé par votre humble serviteur. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grands matchs du sport.
Tu reconnais ton implication.
À partir de 11h.
Mais j'aime bien quand j'essaie d'impliquer.
Allez, on va parler de complexes, de bêtes noires, de tête à claque et de deux entraîneurs qui ne s'aiment pas du tout. À tout de suite sur RMC, Toulouse à Rochelle.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.